Chapitre 32. Pendant la journée, les araignées violonistes se réfugient généralement dans des lieux sombres et retirés. Tiré de Brown Recluse Spider, Michael F. Potter, entomologiste urbain, département d'agriculture de l'Université du Kentucky. Une série de mauvaises nouvelles accueillit Kimberly à son réveil. Le gérant du Smith House avait trouvé 45 reçus de cartes de crédit pouvant correspondre. La météo annonçait un orage pour le milieu de l'après-midi. Son supérieur à la brigade criminelle voulait savoir pourquoi elle n'avait pas assisté à la réunion de service de la veille. Et Mac ne l'avait pas rappelé. Elle affronta ses problèmes aussi posément que possible. Tous les reçus seraient photocopiés afin qu'elle et Sal se les partagent à leur retour. L'orage approchant, ils allaient tout de suite partir pour Sutchies. Elle laissa un message à son supérieur pour l'informer qu'elle creusait une piste de première importance. Et elle chassa Mac de ses pensées. Du moins autant qu'elle le put. Ils montèrent tous dans la voiture de Sal, direction Sutchies. La 60 prenait tout son temps, serpentant en une suite sans fin de virages en S, plus haut, toujours plus haut. Ils passèrent une mine d'or, quelques vendeurs de cacahuètes bouillies, divers chalets à louer. À droite se dressaient les Blue Ridge Mountains, denses murailles de broussailles vertes et de rochers gris. À gauche, un rempart d'arbres imposants, plus fin qu'il n'y paraissait, offrait de brusques vues plongeantes sur une vallée vertigineuse qui s'étendait à perte de vue. Les premières grosses gouttes de pluie crépitèrent sur le pare-brise alors qu'il quittait l'obscurité d'un tunnel d'arbres pour une vallée qui se déployait en douceur. Les sous-bois épais laissèrent place à des prés soigneusement débroussaillés, ceints de clôtures blanches et parsemés de fermes rouges. Si Dahlonega était blotti dans les montagnes, Sutchies était un lointain avant-poste au nord. Une poignée de fermes, les mobilhomes de rigueur, trop de bâtiments aux fenêtres condamnées par des planches. Kimberly essaya de ne pas rater le mouchoir de poche. Trop tard. C'est écrit TWO. Eut juste le temps de dire Rainy en désignant quelque chose alors que Sal filait sur la 60. Attends, c'est le Dales là, dit à son tour Kimberly, pendant que Sal tournait la tête à gauche et ratait complètement la petite épicerie sur la droite. Bougon, il freina par à-coup, slaloma sur la route rendue glissante par l'averse et, se montrant enfin raisonnable, ralentit. Ils arrivèrent à une école en pierre, la plus petite école publique de Georgie, lut Kimberly sur la pancarte, et Sal fit demi-tour. Ils rejoignirent d'abord le Dales, et après s'être garés devant les pompes à essence, se ruèrent vers les portes vitrées sous la pluie battante. À l'intérieur, Kimberly remarqua trois choses à la fois. Une bouffée de chaleur, l'odeur du chili con carne fait maison, et tout un rayon de tenues de chasse orange vif. Dale apparemment vendait un peu de tout. « C'est du chili que je sens ?» demandait déjà Sal à la caisse. « Ben, tant qu'à être là... » Il y avait quelques tables à l'arrière du magasin. Ils s'installèrent et un homme d'un certain âge s'approcha pour les servir. Non pas Dale, apprirent-ils, mais Ron. Dale était sorti. Il ne donna pas d'explication et, à en juger par son air réservé, Kimberly devina que Ron les avait déjà rangés dans la catégorie des étrangers qui n'avaient aucun besoin de savoir. Il prit leur commande, apporta leur plat et se remit à essuyer méticuleusement les tables. Sal attendit d'avoir mangé la moitié de son chili pour attaquer. Ron nettoyait la table voisine lorsqu'il sortit le croquis et que, de cette voix nonchalante qu'affectionnent les enquêteurs et les acteurs télé, il demanda « Dites, vous ne connaîtriez pas ce type par hasard ?» Ron ne fut pas dupe. Il regarda le croquis, puis Sal, puis le croquis à nouveau. Après quoi, il haussa les épaules et se remit à vaporiser les tables. « Il est recherché dans le cadre d'une enquête », expliqua Sal avec plus d'insistance. Ron s'interrompit, considéra la question, se remit à essuyer. « Vous l'avez peut-être vu avec un jeune garçon », ajouta Kimberly. « Il se peut qu'il vive dans la région. »« Avec des garçons », corrigea Ron. Je l'ai vu avec deux gamins. Un grand, un petit. Pas le genre bavard. Sal reposa sa cuillère. Vous connaissez leur nom ?
Non, monsieur.
Ils sont d'ici ?
Non, pas d'ici.
Mais ils viennent pas mal, en particulier l'automne dernier. J'ai bien dû les voir une demi-douzaine de fois, l'homme surtout. Les gamins attendaient dans la voiture. Sauf une fois. Le petit devait aller aux toilettes, alors le grand l'a amené ici. Ils m'ont pas eu l'air net, ces trois-là. Mais ils se contentaient de faire leurs petites affaires et ils repartaient. Pas de quoi leur jeter la pierre. Ils s'étaient tous arrêtés de manger pour regarder Ron, qui vaquait toujours à ses occupations. « Vous pouvez décrire le plus âgé des garçons ?» demanda Kimberly.
« Je ne sais pas, un ado, 17, 18 ans, blanc, vers les 1m80, tout maigre, en pantalon militaire trop grand d'environ deux tailles, comme c'est la mode maintenant.
Il gardait les mains dans les poches, marchait tout voûté. Pas bavard, comme je le disais. Il est juste rentré pour ramener le petit, il a attendu et il est reparti.
Et le petit ?
8 ou 9 ans, des cheveux bruns coupés courts.
Il était tout emmitouflé dans un gros sweat et une veste de chasse orange. Plutôt petiot, je dirais. Mais c'est dur à dire avec tous ses vêtements. Le type portait une belle paire de chaussures de randonnée, mais les gamins n'avaient que des tennis. Je me souviens que sur le coup, je me suis dit que ce serait un miracle s'il ne se tordait pas la cheville. Enfin, les bonnes chaussures coûtent cher, vous voyez, et les enfants grandissent tellement vite. Je sais pas. Il y a des gamins qui débarquent ici avec sur le dos plus que ce que je gagne en une semaine, habillés des pieds à la tête pour leur week-end annuel de randonnée. Faut de tout, je suppose.
Qu'a dit l'homme quand il est entré ? Reprit Sal pressant. Il a acheté quelque chose ?
Ron s'arrêta d'essuyer, le temps de fouiller sa mémoire.
Une bouteille d'eau, une barre chocolatée.
Oh, et des criquets. On en vend pour les pêcheurs et ça l'a tellement emballé qu'il en a pris une boîte. Je pense pas qu'il pêchait pourtant. Il n'avait pas du tout la tenue pour ça. Est-ce qu'il a posé des questions sur certains sentiers de randonnée, raconté où il avait été, ce genre de choses ?
Pas que je me souvienne.
Quelqu'un d'autre les a vus, lui et les garçons ?
Oh, plein de gens. Il y a du monde ici en automne. Pas comme en ce moment, ajouta-t-il presque en s'excusant.
Il a payé comment ? Demanda Rainey.
En liquide, je dirais, répondit Ron avec une moue, vu que c'était quand même pas des gros achats.
Et est-ce que vous auriez remarqué sa voiture ? Demanda à son tour Kimberly.
Non, madame. Un peu trop de travail en automne pour reluquer les voitures.
Est-ce que l'homme a parlé avec les garçons ? Demanda Quincy. Est-ce qu'il leur a dit quelque chose quand ils sont entrés dans le magasin ?
Pas grand-chose. Ils sont entrés.
Ron s'interrompit, sembla fouiller dans sa mémoire. Le plus grand a regardé l'homme en disant « Le gosse a besoin de pisser, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?»
Et ensuite, il a emmené le gamin aux toilettes. L'homme n'a rien répondu, juste eu l'air ennuyé. Il leur avait sans doute demandé d'attendre dans la voiture. Vous savez comment sont les gosses.
« Il n'a pas employé de nom ?» insista Quincy. « Le grand a désigné le petit comme le gosse ?»
Oui, dans mon souvenir.
« Ça laissera entendre qu'ils ne sont pas frères, » murmura Quincy. Cette façon qu'a eu l'adolescent de prendre ses distances avec le petit, de le traiter comme un objet, intéressant. « Vous vous souvenez d'où ils arrivaient quand ils sont passés par ici ?» demanda Rainey. « Du nord ou du sud ?»«
Non, madame. »
« Et c'était à un moment particulier de la journée ? Vous les avez vus le matin, l'après-midi ?»«
L'après-midi, madame, vu que c'était pendant mon service. »
Rainey hocha la tête, fit la grimace. Tous les trois tournèrent à nouveau leur regard vers Sal. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait nous donner davantage de renseignements sur cet homme et les deux garçons ? Insista celui-ci. Il est important que nous apprenions son nom. On le recherche pour l'interroger dans le cadre d'une affaire très importante. Mais Ron secoua la tête.
Comme j'ai dit, ils sont pas d'ici. On les a juste beaucoup vus à l'automne, peut-être jusqu'à début décembre. Je sais plus pour tout dire. Vous pourriez essayer au TWO. Même les touristes ont besoin de manger et comme il a jamais acheté grand-chose ici...
Très bien, on va faire ça, dit Sal en sortant une carte pour la lui donner. Si vous pensez à quoi que ce soit ou si vous les revoyez, lui et les garçons, passez-moi un coup de fil. Et je vous serai reconnaissant de ne pas trop ébruiter cette conversation. Nous voulons retrouver le type, pas l'effrayer.
Ron remarqua enfin le blason de la police d'État sur la carte de Sal. Ses yeux s'arrondirent, il glissa la carte dans sa poche de poitrine, lui donnant un petit coup avec deux doigts pour la faire descendre. Une affaire de drogue, monsieur ? Dans le temps, on ne trouvait que de la bibine de contrebande dans ces montagnes. Aujourd'hui, il n'y en a que pour le cristal. Ça nous fiche en l'air le comté.
Ce n'est pas quelqu'un de bien, répondit simplement Sal. Si vous le revoyez, pas un mot. Appelez-moi et on se chargera du reste.
Ils terminèrent leur déjeuner. Kimberly trouva un lot de 6 crèmes dessert. Rainey s'arma d'un Snickers. Quincy finit son café. Ils repartirent.
Le croquis ne dit rien au patron du TWO, qui n'avait aucun souvenir d'un homme en casquette avec deux garçons. Le « Two Wheels Only » s'adressait plus particulièrement aux motards. Ce qui ne signifiait pas qu'il ne recevait pas d'autres clientèles, mais moins. Il ouvrirait l'œil.
Il pleuvait à verse à présent. Ils traversèrent le parking boueux en pataugeant avant de s'entasser dans la voiture de Sal. Ayant fait le tour de la trépidante métropole de Sutchies, ils n'avaient d'autre choix que de retourner vers Dahlonega. Ils roulèrent en silence, les essuie-glaces au maximum, la voiture secouée par le vent. Kimberly ne quittait pas la forêt des yeux. Les arbres immenses, les sous-bois quasi impénétrables. Elle se demanda où se trouvait Ginny Jones en ce moment même. Si la jeune femme s'était mise bien au chaud et à l'abri dans un coin où elle pourrait sentir cette nouvelle vie grandir en elle, ou si elle était en train de courir dans une ruelle en proie à la panique, talonnée par le danger.
« Attends !» s'exclama Kimberly.
Sal freina trop brutalement. La voiture se déporta dangereusement près de la ligne du milieu.
« Mais qu'est-ce que... » commença-t-il. « Recule, recule, c'était un chemin de débardage. Prenons-le. »
Sal immobilisa alors complètement la voiture, regarda Kimberly comme si elle avait perdu la tête. « Il pleut des cordes, au cas où tu n'aurais pas remarqué.
Je sais, juste un petit détour. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ?»«
Quelque chose de mieux que de s'embourber. » »«
Il a pris ses routes, Sal. S'il les a prises, on peut bien tenter le coup. Allez, on n'ira pas trop loin. » »«
On est à Sutchies, » marmonna Sal. « C'est suffisamment loin comme ça, il me semble. » Il lui jeta un autre regard sombre, mais comme Rainey et Quincy n'émettaient aucune protestation, il enclencha la marche arrière, recula sur le ruban d'asphalte désert et prit un virage serré à droite. Le début de la piste forestière était en dur, à la grande surprise de Kimberly qui s'était attendue à quelque chose de plus rudimentaire. Elle fut également étonnée du nombre de résidences qui, perchés sur différents coteaux, émergeaient entre de denses bosquets de lauriers des montagnes. Mais au bout d'un kilomètre et demi, le bitume laissa place à des gravillons et la forêt sembla l'emporter sur la civilisation. Ils suivirent une courbe et descendirent lentement dans une ravine où la pluie créait un épais torrent boueux qui dévalait à côté d'eux. Ils arrivèrent à un rond-point. Kimberly demanda à Sal de s'arrêter. Puis, avant qu'il ait eu le temps de réagir, elle ouvrit sa portière et sortit sous le déluge. Elle eut vaguement conscience qu'il protestait, que d'autres portières s'ouvraient, que Rainey et Quincy la rejoignaient dans la tourmente. Elle ne le regarda pas, ne dit rien. C'était inutile. Il vivait dans le même monde qu'elle, où les monstres étaient réels, où il s'en prenait de braves gens et où on pouvait passer ses journées rongées par l'accablement ou faire de son mieux pour y remédier. C'était comme si, aussi loin que remontaient les souvenirs de Kimberly, son père et elle avaient pourchassé le spectre de la mort. Probablement un des rares moments où l'un comme l'autre se sentait réellement en vie. Et elle songea, là aussi confusément, dans un coin de sa tête où cela ne pouvait pas trop la faire souffrir, que Mac aurait dû être là. Ils avaient toujours été ensemble, Mac, Rainey, Quincy et elle. Mac lui manquait. « Il se trompe », murmura-t-elle en regardant les arbres dont les branches dénudées s'élançaient au-dessus d'elle, les fourrés denses et verts du sous-bois. « Qui ?» demanda Sal. Il se tenait debout devant elle et la pluie dégoulinait sur son nez, plaquait ses cheveux noirs sur son visage. Il semblait concentré, en proie à une colère qui aurait dû faire trembler Kimberly si elle n'avait pas, elle aussi, connu cette sorte de rage. Cette sensation qu'on éprouve quand on se donne un mal de chien, tout ça pour s'apercevoir que quoi qu'on fasse, ce sera insuffisant. « Ron ! Dîner Cara et les gamins sont d'ici. Forcément, Ron l'a dit lui-même, ils n'achètent pas grand-chose, donc ils doivent déjà être bien approvisionnés. Kimberly, il flotte, il fait froid, je suis trempée jusqu'aux os. Je ne sais pas quel vaudou tu prétends pratiquer, mais arrête de me faire marcher. » C'est une question d'organisation, affirma-t-elle en considérant la mince tranchée du chemin gravillonné, les grands arbres squelettiques, les sous-bois touffus autour d'eux. La pluie avait modelé ses cheveux sur son crâne, elle trempait rapidement sa chemise. Kimberly s'en fichait. La pluie n'avait pas d'importance, la boue n'avait pas d'importance. Seuls les bois comptaient. Tuer quelqu'un est facile, expliqua-t-elle. Mais se débarrasser du cadavre, c'est difficile. Dans 95% des cas, c'est là que l'assassin se plante. Or, nous cherchons un type qui a fait ça non pas une, mais peut-être une douzaine de fois. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il est très bien organisé. Elle s'était avancée jusqu'à la lisière du bois, où les fougères hautes lui effleuraient les jambes à mi-cuisse. Elle énuméra sur ses doigts. 1. Où se débarrasser des corps ? Dans les bois, répondit Sal, moins furieux à présent et plus curieux. D'accord, alors 2, comment les transporter ? Sa voiture, un 4x4, plein de place à l'arrière. Jusqu'ici, répliqua Kimberly en montrant le bain de boue vert et marron autour d'eux. Mais ensuite... Sal hocha la tête, sembla commencer à se prendre au jeu, alors même que son costume gris virait au noir et que la pluie ruisselait dans son cou. Il est tard le soir, ou tôt le matin. Une heure où il peut limiter le risque d'être vu. Il lui faut un endroit isolé, donc il choisit une piste forestière, roule un moment, ensuite il se range, sort le corps du coffre de la voiture, le balance dans un ravin. Le garde forestier le remarquerait. Intervint immédiatement Quincy. Il se tenait un peu à l'écart, là où il pouvait tout entendre, tout en gardant l'espace nécessaire pour organiser ses propres réflexions. Il était bon à ce jeu-là, l'un des meilleurs. De la route, on verrait des buissons piétinés, des branches cassées même. Un garde forestier voudrait savoir si c'est un cerf, un ours, un lynx, que sais-je, et il chercherait. Peut-être que le meurtrier pourrait s'en tirer une fois, deux fois, mais 12. Quelqu'un repérerait que quelque chose a été dérangé et trouverait le corps. Surtout vu l'affluence sur les routes et dans la forêt en haute saison. Donc il l'emporte à l'écart de la route, conclut Sal. C'est lourd un cadavre, souligna Kimberly. Une femme adulte représente un poids mort d'une bonne cinquantaine de kilos. Même en la portant sur l'épaule, c'est pas évident. Il descend, suggéra Sal. Une fois encore, Quincy repoussa l'idée. Tout ce qu'on jette en contrebas peut être aperçu d'en haut, surtout l'hiver quand les feuilles sont tombées. Cette forêt est une destination très appréciée pour la chasse, la randonnée, le camping, la pêche, ce qui signifie que beaucoup de gens se promènent dans ces bois, y compris dans des secteurs censément isolés. Le plus sûr, c'est les hauteurs, au-dessus des sentiers, là où les autres ne mettent pas les pieds. Sal regarda les trois autres. « Je ne comprends pas. »« Quelqu'un l'aide, » souffla Kimberly. L'adolescent, je dirais. Qu'il participe au meurtre, je n'en suis pas sûre. On n'entendait personne d'autre sur la cassette. Mais il l'aide au moins à se débarrasser des corps. Un homme seul sur les sentiers à une heure avancée de la nuit, c'est louche. Tandis qu'un père et son fils, ils font du camping, compléta Sal. Ça explique le gros paquet qu'ils portent, ou peut-être qu'ils traînent dans un chariot derrière eux. Merde, dit Sal avec lassitude en se passant la main sur les yeux. « Ça leur prendrait des heures, » intervint Rainey en scrutant les bois d'un œil vif. « Il leur faudrait des outils, une corde, de la toile, une pelle, une pioche, et puis de la nourriture, de l'eau, une trousse de secours, une boussole, le matériel de base. Kimberly a raison. Pour faire ce qu'ils ont à faire, Dinekara est bien équipé. Ce qui signifie que s'il ne fait pas ses achats sur place, c'est qu'il a un point de chute.
Le petit garçon, murmura Kimberly. Exactement, dit Rainey, poursuivant son raisonnement. La serveuse du Smith House ne l'a pas vu, ce qui sous-entendrait qu'il ne l'emmène pas. Peut-être qu'il est encore trop jeune, qu'il les ralentirait. Alors, il le laisse quelque part, et Dinekara part avec le plus âgé accomplir leur besogne nocturne.
Il a forcément une maison dans les parages. C'est la seule explication qui tienne. Peut-être même que les filles sont en vie quand il les amène par ici. Imaginez un de ces petits chalets devant lesquels nous sommes passés, perdus dans les bois. Même si une femme hurlait toute la nuit ou parvenait à s'enfuir, qui l'entendrait ? Où irait-elle ? Un chalet résout tellement de problèmes.
On peut consulter les impôts locaux, dit Sal.
Voir tous ceux qui ont acheté une maison du côté de Dahlonega ou Sutchies ces 5 dernières années. Comparer les noms avec les reçus du Smith House pour le week-end de Columbus Day.
Et chercher quel emploi il occupe, ajouta Quincy.
S'ils sont assez souvent dans la région, Dinekara a besoin d'argent. De mon temps, 50% des revenus d'une prostituée, ça n'allait pas chercher loin. Alors, soit il a une kyrielle de filles dont vous n'avez pas encore entendu parler, soit il a une autre source de revenus. Étant donné ce que nous savons de lui, il ferait un excellent guide de randonnée ou un agent de l'Office des forêts, s'exclamèrent-ils en chœur.
Ça lui donnerait toutes les informations et tous les droits d'accès dont il a besoin sur les petites routes de Blue Ridge Mountains. Et même une excuse en béton si jamais il se faisait surprendre. Sans compter qu'il saurait quand les autres doivent mener des études dans les secteurs où il s'est débarrassé de cadavres. Ce qui lui permettrait de déplacer les corps, voire de réorienter l'étude.
« Et merde, je n'irai plus jamais en randonnée, » dit Sal d'un air abattu.
« Il faudrait qu'on aille à la pisciculture demain, » dit Kimberly.
« Ouais, j'avais compris. »
« Qu'on obtienne de la ville la liste des propriétaires, qu'on voit qui on pourrait rencontrer à la forêt nationale de Chattahoochee. »
« Ouais. »
Rainey arpentait encore le rond-point boueux. « Vous savez ce qui m'épate ?» demanda-t-elle. Tous se tournèrent vers elle. « On est en février, les feuilles sont tombées, et pourtant on ne voit pas à 3 pas devant soi. Regardez ces lauriers des montagnes, ils sont grands comme des petites maisons. Et puis il y a les hautes herbes, les troncs tombés par terre, les bosquets de pins blancs. Dans n'importe quelle autre forêt, on pourrait voir entre les arbres sur 20-30 mètres, mais pas ici. » Bon sang, même moi qui ai grandi en forêt, ça me donne la chair de poule.
Là-dessus, marmonna Sal en relevant son col détrempé, on pourrait remonter en voiture, s'il vous plaît ?
D'accord, dit Kimberly, mais prochain arrêt au Walmart.
Je vous signale qu'on est tous trempés comme des soupes. Que sommes-nous censés porter demain à la pisciculture ?
On passe encore une nuit ici, grommela Sal. Tu as mieux où aller ?
Direction le Walmart.